Ce jour est dédié pour la réussite et la bonne santé de la famille Smama Bezrat Hashem. Le paracha de la semaine prochaine, ici en Israël, c'est Emor, et à l'étranger, c'est Kedoshim. On va plus parler de Kedoshim vu que deux tiers à trois quarts de nos auditeurs habitent à l'étranger. Le paracha de Kedoshim, une paracha qui est remplie de mitzvot, et beaucoup de mitzvot entre l'homme et son prochain. Notamment, pas se venger, aimer son prochain, ne pas le haïr, et une mitzvot dont on va parler aussi, qui est celle de Betzedek Tishpot Amitecha. Littéralement, c'est tu jugeras ton prochain avec justice. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est ce qu'on croit comprendre quand on lit, mais en fait, il s'agissait d'en expliquer la chose suivante. Quand je vois quelqu'un faire une action, c'est clair que c'est une action qui est mauvaise. Il mange du porc, d'accord, par exemple. Ok, je lui dis, tu sais que c'est interdit. Il me dit, oui, tu es malade. Non. Bon, alors, terminé, d'accord. Je peux le juger négativement. Il mange du porc et c'est interdit. Cette mitzvah-là, elle apparaît lorsqu'on a un doute. Je vois quelqu'un faire une action que je peux juger positivement ou négativement. Ce n'est pas clair, d'accord? Alors si c'est pas ça une personne qui est cachère, normale, pas un grand sadique, alors si les doutes de le juger en bien ou en mal sont à peu près équivalents, alors il y a une obligation, c'est la mitzvah, mais c'est ce que je pourrais t'aimer, il y a une obligation de le juger favorablement. Dire certainement, non, ce n'est pas le mauvais côté, c'est le bon côté que je dois prendre. Et c'est très dur parce que nous tous, on a une tendance pour monter notre ego de regarder les défauts des autres. D'accord, c'est là très très malheureux. Il faut travailler là-dessus pour essayer de voir toujours le bien chez les autres. Et savoir que comme nous, on juge les personnes, comme ça, Hachem aussi nous juge dans le ciel. Si on voit qu'il voit Hachem, nous aussi, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Il y a du bien et du mal. Alors, quand Hachem voit que je regarde le bien chez les gens, il regarde le bien chez moi. Quand je regarde le mal, alors il va commencer à écouter lui aussi, et ça ne manque pas d'anges accusateurs dans le ciel qui vont accuser, regarde, Rav Shaya, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Hachem Ishmor. D'accord? Donc, c'est le mitzvah de la Torah. Si la personne qu'on voit est un sadique, quelqu'un qui est d'habitude irréprochable, même si ça tend plus vers le mal, il y a l'obligation de le juger favorablement. Si ce n'est pas un tzaddik, c'est un homme kacham, comme j'ai dit auparavant, donc l'obligation, elle est que si c'est équivalent, si ça penche plus vers le mal, il y a une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire, mais une mesure de piété de le juger aussi favorablement. Et si c'est un rachat, un mécréant, alors même si ça tend plus vers le bien, il y a une mesure de le juger mal. D'accord? Un mécréant, l'enfonce encore plus, un vrai mécréant, d'accord? Une ordure, d'accord? Alors là, même s'il fait une chose de bien, il faut dire non, certainement, il faut essayer de voir le mal qu'il y a là-dedans et le juger mal. Je vais raconter quelques histoires qui montrent à quel point on peut se tromper, à quel point les conséquences peuvent être absolument terribles. Une histoire qui est connue, peut-être j'ai déjà raconté certainement ici, mais bon, c'était il y a très longtemps. Cette histoire a lieu durant la Première Guerre mondiale. Ici à Jérusalem, il y avait la famine, tout simplement. Tous les matins, il y avait des corps par terre dans la rue, des gens qui étaient morts de faim. Terrible. Et il y avait quelqu'un qui avait un Napoléon. Napoléon, c'est une pièce en or, comme ça, qui avait une petite fortune à l'époque, d'accord. Et il l'a caché, il l'a mis au-dessus de son armoire, comme ça, le jour où vraiment il y aura très très besoin, alors on n'est pas sur la paille, on aura de quoi un peu survivre encore un peu. Et son fils a remarqué, son petit enfant, il a remarqué qu'il montait là-haut, de temps en temps, regardait ce qui se passe, il voit la pièce, il prend la pièce. Il a compris qu'avec la pièce, on peut acheter des choses. Alors il va au kiosque en face et achète un gâteau. Et il revient avec le gâteau dans la bouche, son papa lui dit, d'où t'as acheté ça? Mais ouais, j'avais une pièce sur l'armoire, j'ai pris, j'ai acheté le gâteau. Quoi? Le Napoléon, une pièce en or, acheté un gâteau? Il fonce chez le propriétaire du kiosque, lui dit, rends-moi le Napoléon. Mais de quoi tu parles? Mon fils est venu, il t'a donné un Napoléon, et quand un Napoléon, tu lui as donné un gâteau, non, ça va pas, t'es un grand voleur. Mais jamais de la vie. Ton fils est venu, m'a donné une pièce normale. Il y avait des pièces turques à l'époque, d'accord? Une petite pièce turque de rien du tout qui vaut le prix du gâteau. Menteur! Il a pris sur l'armoire, là-bas, c'était le Napoléon en or. Tu dis qu'il a pris une pièce en cuivre, rien du tout. Et commence une grande discussion entre les deux. Le type qui écoute, si tu veux, on fait un din Torah. Ils font un din Torah, donc un tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique l'oblige à jurer qu'effectivement, il n'a pas reçu le Napoléon et il a reçu une pièce en cuivre. Il y a des gens qui veulent ne pas jurer. C'est une très bonne coutume, parce que jurer, c'est extrêmement grave. Donc moi, je ne jure pas. Alors, dans ce cas-là, il faut que tu payes. Bon, ok, je ne vais pas payer en une fois, je n'ai pas l'argent, je paye sur quelques années, et commencer à payer comme ça une somme assez faramineuse. Le problème est que les gens ont dit, regardez, c'est honteux. Le propriétaire du kiosque, il a profité de la naïveté de l'enfant, il a pris le Napoléon, le gâteau entre à la place, l'autre, c'est son, argent, son seul argent comme ça, il se retrouve à la paille, etc. etc. Et tout le monde se met à parler, évidemment. Plus personne commence à boycotter, les gens commencent à boycotter le kiosque, etc. Le type, il fait faillite, encore plus, tout ce qu'il doit payer, etc. Terrible. Après la guerre, quelques années, vient un type voir le propriétaire du Napoléon, lui dit, écoute, voici le Napoléon. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant la guerre, ma famille, j'ai une grande famille, on était affamés, ça allait plus. Et je vais dans la route, je vois ton fils avec un Napoléon dans la main. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais acheter un gâteau. Je n'ai pas besoin d'un Napoléon pour acheter un gâteau. Passe mon Napoléon, tiens, je te donne une pièce et tu vas aller avec ça, tu vas acheter le gâteau. Le fils n'a pas raconté ça à son père. Et maintenant que ma situation est mieux, je te rends le Napoléon. Mais sache que sans ton Napoléon, je serais mort de faim. Moi et ma femme, c'était vraiment piquoir nefesh. Bon, à ce moment, tout le monde a su qu'effectivement, le propriétaire du kiosque était un homme honnête. Mais, en attendant, le type, il a fait faillite. Ses enfants, tout le monde se moquait d'eux à l'école. C'était terrible, 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 terrible. Les rabbins qui racontent cette histoire posent la question. Ok, après 120 ans, tout le monde va au Olam Haba. Comment on va les juger? Le propriétaire du kiosque, lui, va tout droit au paradis. Le pauvre, on l'a accusé d'une chose qui est complètement fausse. Rabbi Yossé, dans le traité Shabbat, page 118, il dit que je fasse partie des gens qu'on accuse de choses qui sont fausses. D'accord? C'est un grand mérite, c'est pas facile, parce que les gens te parlent d'une chose, t'accusent, mais t'as absolument rien fait. Il aura le grand mérite, il va tout droit au Gan Eden, au paradis. Le gosse, ben c'est un gosse, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? D'accord? Le propriétaire du Napoléon, ben lui c'est normal qu'il a fait ce qu'il a fait, il a fait un din Torah, et le din Torah a tranché comme il fallait, les rabbanim aussi, ils sont tranchés d'après la Torah. Qui reste que le voleur? Le voleur, lui, ok, alors il a volé, mais c'était une situation de piquar nefesh, sans ça, lui et sa famille crevaient de faim. Et dans des cas pareils, c'est permis de voler pour rendre, si c'est vraiment un cas de danger de mort. Ok, alors tout le monde va au paradis. Mais pourtant, il y a eu un dommage terrible. Les responsables du dommage iront en enfer. Qui c'est? Les gens qui ont parlé. Tous ceux qui ont dit. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu comprends? Peut-être que. Mais tzedek, tishpot ametecha, tu jugeras ton prochain de façon juste. Ça veut dire, si c'est un type qui est sadique, un type bien, même si ça tend plus vers le mal, allez se tendre l'esprit pour aller essayer de dire non, peut-être qu'il y a eu quelque chose et qu'on n'est pas au courant. Et les gens parlent, et les enfants parlent, et les femmes parlent, et les hommes parlent, mais tout le monde, ça fait un grand, grand, grand et terminé. Et ça, ceux-là, ils iront pour le paradis. C'est clair aussi, ils iront peut-être à la fin, mais auparavant, ils sont à un passage assez pénible en enfer. Regardez à cause de vous, qu'est-ce qui s'est passé. Voyez donc à quel point, chers amis, on doit faire attention à ce qu'on sort de notre bouche, et surtout dans la tête, commencer à juger favorablement. Encore une histoire de ce genre-là, terrible. Il raconte le Rav Karlenstein. Le Rav Karlenstein, Rouven Elitzur Karlenstein, raconte que lui, il priait à Lederman. Lederman, c'est la synagogue où priait le Rav Chaim Kanevski, son père aussi, le Stipler, Shneim, les deux, Zechet Tzadikim Livracha. En fait, il y avait deux minyanim là-bas. Il y avait le grand minyan normal, puis il y avait un petit minyan dans une petite chambre à côté pour ceux qui priaient un peu plus tôt ou un peu plus tard, d'accord? Et le Rav Karlenstein, qui raconte l'histoire, il priait là-bas. Et ils étaient exactement 10 personnes. Bon, ils font la Amida, ils finissent, et pour faire la Chazara, il faut que les 10 personnes soient présentes. Et il compte, il voit qu'il n'y a que 9. Il y en a un qui est sorti. Mais il est où? On va par la fenêtre, il est sorti dans un petit jardin là-bas. Et dans le jardin, je dis, viens. Non, non, je ne peux pas, je viens pas. Mais comment? On a besoin de toi, tu es le 10e, j'ai besoin d'air. Mais viens ici, aussi de l'air aussi. Non, non, ici, il y a l'air meilleur. Mais ici aussi, il y a un ventilateur. Non, je ne viens pas. Ils l'ont pris pour un fou. Ça va, viens ici, il n'y a pas tellement de différence entre là et là. J'ai besoin d'air. Non, ok. Bon, ils ont pris quelqu'un d'autre, ils ont trouvé dans la rue, hop, ils ont amené un 10e, hop, ils ont fait la chassara. Le type qui avait besoin d'air, il demande après la prière, appelez ma femme, je me sens pas bien. Et chers amis, quelques heures plus tard, il est mort d'une crise cardiaque. Le Rav Karlenstein qui raconte l'histoire était présent et dit, mais nous tous, quand on a réfléchi, on a dit, mais il est malade celui-là, complètement dingue, qu'est-ce qui lui arrive? Bien, c'est pas grave, d'accord. Et il est mort le pauvre. Comment on peut se tromper quand on juge quelqu'un et on ne sait pas à quel point les choses... Alors là, ce n'est pas à cause des gens qui l'ont mal jugé et qu'il est mort, mais regarde à quel point le jugement, il peut être faux. Et après, on peut regretter terriblement comment je l'ai jugé en mal, alors que le pauvre, il était complètement innocent, il était en train d'agoniser. Dernière histoire que je vous raconte, histoire authentique aussi. Il y avait à Bnei Brak, un avraire extrêmement pauvre, et devait marier son fils ou sa fille. Il n'avait pas d'argent. Alors tous les copains se sont attelés à la tâche, ils sont demandés de l'argent dans les familles, etc. Ils tournaient comme ça, et chacun lui a amené une petite somme comme ça. Au bout d'un moment, il a eu de quoi pouvoir acheter. Merci, baisser, merci. OK. A lieu le mariage. Ils viennent. C'est une des salles les plus somptueuses qu'il y a à Bnei Brak. Bon, on peut avoir la salle somptueuse, mais aussi là-bas, il y a différentes salles, les plus petites et les plus grandes. La plus grande. Le repas, on peut avoir deux salades, on peut avoir 20 salades. 20 salades. Et plusieurs viandes, et plusieurs poissons. Et les gens commencent à regarder l'un et l'autre comme ça et disent, ben dis donc, notre cher ami, on a pris de l'argent pour qui? Pour un riche, d'accord? Après le mariage, les gens continuaient, ils étaient engagés à donner de l'argent plusieurs fois pour qu'ils puissent payer toutes les dettes pour le mariage. Et les gens disent, écoute, moi je veux bien aider les pauvres, mais pas dire, t'as vu que le mariage, il a fait. Et puis personne ne donne plus rien. Et le type se retrouve très très embêté. Parce que c'est vrai qu'il y a la salle, mais à part la salle, il y a la dos, il y a les habits, il y a beaucoup de choses, beaucoup de trouver un appartement, etc., les meubles, etc. Il y a beaucoup d'argent, pas que le mariage lui-même. Pour ça, il a besoin de cet argent-là. Alors ce pauvre-là, il va voir, enfin ce pauvre, entre guillemets, d'accord, il va voir le responsable, il dit, écoute, je vais te raconter ce qui s'est passé. Je suis allé voir le responsable de cette salle de mariage, il avait les plus petits pour les pauvres et les plus grandes comme ça, somptueuses pour les riches. Il a vu mon nom, il m'a dit, dis-moi, comment s'appelle ton père? Je lui ai dit, le mariage est gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ton père m'a sauvé la vie durant la Shoah. Et ça fait depuis des dizaines d'années que je cherche moyen de lui rendre ce qu'il m'a fait. Lui a disparu, je cherchais des descendants. Et maintenant tu viens, moi je suis le responsable ici, je te fais tout le mariage, c'est moi qui le fais. Il n'a pas fait un mariage rikiki dans une petite salle, il a fait la plus somptueuse avec les meilleures choses pour akaratato, pour reconnaissance du bien qui était fait. Il m'a sauvé la vie, la moindre des choses que ce que je lui fais un mariage pour son fils. Regardez maintenant de nouveau les gens. Qui va imaginer une chose pareille? Le type, on donne l'argent, il fait un mariage somptueux, tout le monde dit, on s'est fait avoir. Regardez à quel point des fois il peut avoir des choses et... Et si on ne réfléchit pas bien, on ne va pas faire ce que la Torah nous ordonne de juger favorablement notre prochain, alors on peut lui faire beaucoup de mal. Ce type-là, s'il ne s'était pas expliqué, il aurait été à la paille, d'accord? Il a besoin d'argent, les gens sont engagés, rien du tout. On va faire tous des efforts, tous. C'est clair qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus, dans ce sens-là, de juger de façon préférable, de façon positive notre prochain, et ainsi Dieu nous aura pitié de nous aussi, il verra qu'on est unis, qu'on s'aime, et amènera la Géoula, Bekarov, Baruch, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.